Hello tout le monde! Un petit mot avant de commencer. Cet épisode est soutenu par Shine, la néobanque dédiée aux indépendants. À mes débuts, j'ai galéré pour trouver une banque qui comprenne un minimum mon activité et mes besoins d'entrepreneuse. Quand Shine est arrivée sur le marché en promettant de nous faciliter la vie à nous, les freelances, j'ai été très intriguée. Je suis donc allée interviewer Nicolas, le cofondateur de Shine, pour le podcast. Il venait à peine de lancer Shine, mais juste parce qu'il parlait la même langue que moi, j'ai eu envie d'ouvrir un compte chez eux. Aujourd'hui, si je suis toujours aussi fan, c'est parce qu'en plus du compte pro, Shine me rend tout un tas de services. Je vous donne un exemple. Certains de mes clients ont tendance à me payer en retard. Je dois toujours les relancer et ça me met hyper mal à l'aise. Avant, je mettais des heures à écrire mes mails de relance parce que j'avais peur qu'ils soient mal reçus. Maintenant, plus de prise de tête. Shine a intégré dans son application bancaire un outil de facturation grâce auquel je peux programmer des relances automatiques. Mes clients un peu lents à la détente reçoivent de mes nouvelles toutes les semaines. Mais je vous rassure, la plupart du temps, une seule relance suffit. Alors si parmi vous, il y en a qui sont sensibles à ce genre d'attention, j'ai une bonne nouvelle. Shine offre 2 mois d'abonnement aux auditeurs de la cohorte. Pour en savoir plus, allez jeter un œil sur shine.fr/la-cohorte. Bienvenue à vous et à vos oreilles frétillantes d'audace. Vous écoutez La Cohorte, le podcast qui rapproche les freelances. C'est Marine qui vous parle, l'entrepreneuse curieuse qui aime savoir comment vous débrouillez au quotidien. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, sachez que dans chaque épisode, je m'attaque à un sujet qui nous concerne tous, ou du moins un bon nombre d'entre nous. La plupart du temps, j'aborde cette question à travers des interviews de freelance qui ont trouvé des solutions malines et surtout reproductibles. Il m'arrive aussi de changer de format, car voyez-vous, j'aime bien vous surprendre. Mais rassurez-vous, l'objectif reste toujours le même. Vous donner des idées pour kiffer encore plus votre vie de freelance. Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en pleine forme. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais vous êtes de plus en plus nombreux ici. À chaque épisode, de nouvelles oreilles de freelance nous rejoignent. Je le sais car j'ai un tic. Je jette un œil tous les jours aux statistiques que me fournit le site qui héberge le podcast. Quand il y a un pic, cela signifie qu'il y a eu beaucoup d'écoute et mon cœur bondit de joie. J'ai l'impression que mon podcast s'envole vers un succès planétaire. Je me vois répondre à des interviews, être sollicité pour des centaines de partenariats, à tel point qu'il me faut un agent pour faire le tri. En revanche, quand il y a un creux, je plonge moi aussi. Je me dis que s'il y a peu d'écoute ce jour-là, c'est que le podcast n'intéresse plus personne, que je n'ai rien compris, que les autres font 1000 fois mieux, et que ça serait plus raisonnable de tout arrêter. Mon petit doigt me dit que vous aussi, vous vivez des émotions très fortes à cause ou grâce à votre business. Je crois que cela fait partie du package qu'on reçoit quand on devient freelance. Avec mon invité d'aujourd'hui, on va voir comment mieux comprendre ces émotions et comment les apprivoiser pour pouvoir travailler de façon plus apaisée et ne pas tout remettre en question à chaque fois que notre cœur s'emballe. Mon invitée, c'est Élise et c'est une spécialiste des émotions fortes. Elle est coach en énergie positive. Concrètement, cela signifie qu'Élise aide des femmes hypersensibles à reprendre confiance en elles. Mais ce n'est pas tout. Élise est aussi prof de danse pom-pom, la danse des cheerleaders venue des États-Unis. Ah, et j'ai failli oublier, Élise est elle-même hypersensible. Alors comme je ne savais pas très bien ce que c'était que l'hypersensibilité, j'ai profité de cette interview pour lui poser la question.
Élise, c'est quoi l'hypersensibilité ?
Alors, l'hypersensibilité, c'est une sensibilité en fait accrue. Donc c'est la même chose que toutes les autres sensibilités, simplement les intensités vont être plus fortes. Il y a 3 piliers de l'hypersensibilité qui sont importants. Il y a l'hyperémotivité, ça c'est le plus connu et le plus cliché, mais il faut surtout pas s'arrêter à ça. L'hyperémotivité, c'est effectivement des émotions internes assez importantes. On pense souvent à pleurer, mais ça peut être aussi des joies décuplées. C'est l'hypersensorialité, donc là c'est le fait que vos sens, l'ouïe, l'odorat, enfin vous connaissez vos sens, sont hyper développés. Et c'est pareil, on a une sensibilité accrue de nos sens, toujours pareil, à la fois dans le positif comme dans le négatif. Donc par exemple, on peut être sensible à certains petits bruits agaçants qu'on va pas supporter, mais avoir une musicalité ou une importance de l'écoute ou une ouïe très fine, par exemple, donc ça c'est aussi possible. Et le 3e volet très important, c'est l'hyperactivité mentale. Ça, c'est vraiment les 3 piliers importants de l'hypersensibilité. Et en fait, à ça, moi je rajoute ce qu'on déclare souvent dans l'ultra-sensibilité, c'est les hypersensibles qui sont hyper empathiques, ce qui est mon cas. Et donc là, c'est plutôt comment tu ressens les émotions des autres.
Tu peux revenir sur l'hyperactivité mentale, c'est quoi précisément ?
L'hyperactivité mentale, c'est vraiment le fait qu'on va avoir tout le temps des mécanismes de pensée, de remise en question, de questionnement qui vont être un peu compliqués à apaiser et à éteindre. Et donc du coup, c'est le fait de se questionner, d'avoir vraiment ce cerveau qui tourne en permanence. C'est-à-dire que là où tu vas te poser plein de questions, l'hypersensible va s'en poser non-stop, quoi. Et ça peut être quelque chose à gérer.
Tu dis que l'image de l'hypersensibilité en France, elle est un peu péjorative ?
Effectivement, je trouve que l'image de l'hypersensible... Alors, depuis quelques années, il y a vraiment ces nouvelles discussions autour de l'hypersensibilité, ça commence à se faire savoir, donc on est en train de sortir des clichés. Mais on va dire que dans l'univers commun, l'hypersensible, c'est toujours la chialeuse, quoi. C'est toujours ce qu'on pense. Et quand tu dis quelqu'un qui est hypersensible, c'est forcément quelqu'un qui va pleurer de tristesse très facilement, et c'est tout. C'est un peu réducteur. Et donc, en fait, c'est pour ça que l'image de l'hypersensible, pour moi, est un petit peu dévalorisée, et que j'essaye de proposer une image positive, différente, prouver que l'hypersensibilité, c'est juste un trait de caractère, et c'est absolument pas une maladie, c'est important de le redire. C'est juste une façon de fonctionner, plus intense, point barre. Et en fait, on peut être hypersensible et ultra positive, ultra dynamique.
Alors moi, des émotions décuplées, je me reconnais beaucoup là-dedans, surtout quand ça concerne ma boîte. Et je sais que beaucoup des freelances que j'ai croisées sont un peu comme ça aussi. Alors ma question est la suivante, est-ce qu'on n'est pas tous un peu hypersensibles ?
Alors ça, c'est une très bonne question, Marine. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant de savoir, c'est que les dernières études montrent récemment qu'on est en train de s'approcher des 30% de la population qui est hypersensible. Donc c'est énorme. On était sur du 15-20% et de plus en plus, les chiffres augmentent. Et en fait, ce qui est intéressant de se dire, c'est que t'as un petit peu deux tendances dans le milieu de l'hypersensibilité. T'as les gens qui vont donc t'expliquer que t'as 30% de la population qui est hypersensible. Ça veut dire aussi qu'il y a une grosse partie de la population qui est sensible, sans être hypersensible, et à la fois une partie qui va être plus hyposensible, c'est-à-dire avec une sensibilité assez basse. Mais t'as aussi d'autres personnes qui vont plutôt avoir le discours inverse, qui vont dire que en fait, on est tous des hypersensibles. Simplement, il y a des gens qui sont hypersensibles et qui s'ignorent et d'autres qui s'assument. Donc ça, c'est un petit peu les différents courants où chacun peut avoir sa perception des choses. Et en fait, dans ceux qui disent « est-ce qu'on n'est pas un peu tous hypersensibles ?», c'est possible dans le sens où on pourrait se dire on est tous hypersensibles et simplement la société nous encapsule notre sensibilité parce que dans les normes, on nous apprend plutôt à pas trop montrer notre sensibilité, à pas trop montrer nos émotions. Et donc, t'as des gens qui vont plutôt avoir un discours comme... t'as ceux qui ont révélé leur hypersensibilité et qui se sont reconnectés à leur sensibilité et ceux qui ne l'ont pas encore fait.
Est-ce que tu saurais me dire pourquoi toi, en tant qu'hypersensible, tu t'épanouis plus en tant que freelance que salarié, puisque tu as été salarié ?
Oui, alors effectivement, moi j'ai été salariée et indépendante pendant 3 ans en parallèle. J'avais deux métiers, donc j'étais à la fois salariée et à la fois freelance, avant de devenir freelance à temps plein en 2014. Ce qui est intéressant, c'est est-ce que c'est en tant qu'hypersensible ou juste en tant que moi ? J'ai pas vraiment la réponse. Je pense que, comme pour tout, mon hypersensibilité a joué, mais n'est pas forcément le moteur principal ou en tout cas total dans ce choix-là. Moi, c'était hyper important de retrouver de la liberté, en fait. En tant que salariée, j'étais beaucoup trop contrainte, j'avais besoin de... Enfin, ce qui vraiment m'épanouit, c'est de pouvoir gérer mes journées comme je veux, de pouvoir avoir mes projets et d'avoir pris la responsabilité de ma vie. C'est-à-dire que maintenant, mes échecs et mes victoires m'appartiennent. Je choisis ce qui me semble être le mieux. Si j'ai fait une connerie, derrière, je l'assume. Mais en tout cas, j'ai ce truc-là de pouvoir me dire « je fais mes choix ». Et ça me fait un bien fou, vraiment, de pouvoir choisir ma vie, tout simplement, en fait.
En préparant l'interview, je m'étais notée de te demander des conseils pour tous les freelances hypersensibles, mais on a vu ensemble que ça donnerait une réponse super creuse, parce que c'est impossible de mettre tout le monde dans le même panier. Alors du coup, moi, j'aimerais savoir comment toi, tu fais pour ne pas te laisser déborder par tes émotions au quotidien, surtout quand on sait ce que c'est que la vie d'entrepreneur avec ses hauts et ses bas.
Je travaille sur moi en continu. Faut pas s'attendre à une recette miracle. Des fois, on me demande, est-ce que toi, tu penses que ça y est, tu gères tes émotions parfaitement et t'as parfaitement confiance en toi ? La réponse, elle est non. Forcément, j'ai appris des techniques de développement personnel. J'apprends à, quand je sens que je pars dans tous les sens ou que je vis les montagnes russes, à faire ce pas de recul et à me dire, ok, 2 secondes, qu'est-ce qui là te fait peur ou qu'est-ce qui crée un doute ? C'est quoi cette émotion ? De la regarder, de la nommer et finalement de pouvoir réagir différemment de quand je réagissais avant d'un point de vue plus animal, tu vois, sans réflexion, sans outils, tout simplement. Pour moi, c'est un travail de tous les jours, clairement. Tu vois, la période de confinement te met à l'épreuve aussi. j'ai encore eu des périodes de doute ou d'incertitude et de peur, et c'est ok. Simplement, comment je fais en sorte de continuer à me poser ces questions de pourquoi c'est là et comment je peux changer ça avec tous les outils et toutes les techniques que j'utilise au quotidien.
Et est-ce que tu pourrais me donner un exemple de situation où tu as senti que ton cœur s'emballait et que tu as réussi à prendre un peu de recul et que de trouver l'origine de l'émotion et de la nommer, ça t'a aidé?
Là, avec le confinement, il y a tous mes événements qui se sont annulés. Donc moi, il faut savoir que j'ai les coachings et d'autre part, je suis chorégraphe, professeure de danse, je fais des conférences, j'anime des ateliers, donc il y a beaucoup de choses. Et donc, autant les coachings se font en ligne à distance, il n'y a posé pas de soucis, mais tout le reste a été supprimé. Les cours, les stages, les conférences et les événements que j'avais. Et donc du coup, évidemment, petite panique de se dire « Waouh !» C'est-à-dire que tu n'as pas de garantie. Et se dire « Comment je vais faire quoi ? Comment je vais faire ? Qu'est-ce qui va se passer ?» Ça fait beaucoup d'un coup. Et en fait, je me suis, j'utilise quelque chose qui me sert énormément, que j'intitule la sphère de responsabilité, c'est sur quoi j'ai directement de l'influence. Donc en fait, j'ai pris ce temps de se dire « Bon bah, qu'est-ce qui est un fait ? Et qu'est-ce qui est ma réaction ?» Sur quoi je peux avoir un impact, sur quoi je peux pas en avoir. Je ne peux pas faire en sorte de changer le confinement, donc je ne pouvais pas avoir un impact sur la reprogrammation de mes événements, pour l'instant en tout cas. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution ? Et donc j'ai redirigé mon énergie, au lieu de les diriger sur les choses que je ne contrôle pas, je me suis dit, sur quoi tu peux avoir de l'impact ? Sur quoi tu peux faire quelque chose ? Et donc je me suis dirigée sur, évidemment, continuer à développer mes coachings en ligne, et en fait j'ai aussi lancé mon école de danse pom-pom en ligne. Et ça m'a permis aussi de me dire, ces événements-là sont annulés, il y a peut-être aussi une raison qui fait que l'univers me dit, ça c'est peut-être plus la priorité, c'est peut-être pas important pour toi. Et je me suis recentrée en fait sur là où j'avais de l'action.
On a évoqué aussi ensemble, alors quelque chose, quand je vais le dire, ça va paraître très bateau, voire un peu cucu, une technique qui consiste à dégager le négatif et ajouter du positif dans ta vie. Concrètement, comment tu fais ?
Ça paraît hyper bateau et pourtant c'est ce qui a radicalement changé mon énergie au quotidien. C'est ce que j'appelle notamment la diète médiatique. Enfin, c'est pas moi qui l'appelle comme ça, ça s'appelle la diète médiatique. C'est réussir à faire le tri dans les informations qu'on reçoit. Aujourd'hui, on est ultra connecté, que ce soit par les réseaux sociaux, la télévision, la radio, tout. On reçoit un flot d'énergie et un flot d'informations continues. Et en fait, ce que j'ai choisi de faire, c'est de me couper de toutes les informations négatives, principalement, et de choisir quelles informations je recevais et quelles informations je recevais pas. Concrètement, comment ça se traduit ? Je ne regarde pas les journaux télévisés. Je ne regarde aucune information en live. Je suis désabonnée de comptes qui sont de l'actualité en temps réel. Et je sélectionne mes sources d'informations. Ça veut dire que si je veux me renseigner sur un sujet, c'est moi qui vais aller taper dans Google ou m'abonner à un magazine dédié qui est une source sûre pour moi, quelque chose de confiance. Et ça peut être aussi faire le tri dans vos réseaux sociaux, et ça pour moi c'est ultra important, dans le positif comme dans le négatif. Donc concrètement, par exemple, tous ceux qui partagent des informations tout le temps négatives, qui sont dans des débats stériles, et que je n'ai pas envie de recevoir, ou j'ai pas à me justifier d'ailleurs sur ça, c'est si en ce moment je me sens pas de lire ce type d'informations, ça veut pas dire qu'elles sont bonnes ou mauvaises, c'est pas un jugement de l'information, c'est juste moi, dans ma position, j'ai pas envie de lire ça en ce moment, j'ai pas envie de recevoir ce type d'informations, et encore moins, j'ai pas envie de les avoir en non sollicité. Et ça peut être le cas dans le positif, c'est quelque chose qu'on évoque assez peu, mais par exemple, je sais pas, sur Instagram, pareil, je me désabonne de comptes négatifs, mais ça peut m'arriver de me désabonner aussi de personnes que j'admire. Pourquoi ? Parce que l'idée de tout ça, c'est juste faire le tri dans les informations que tu as envie de recevoir, et surtout dans qu'est-ce qui te donne de l'énergie positive. Et donc, des fois, t'as des gens qui sont admirables. Je sais pas, moi, il y a une influenceuse que j'aime beaucoup, par exemple, qui fait beaucoup de choses. J'aime beaucoup son combat, c'est top ce qu'elle fait, mais en ce moment, je me suis désabonnée de son compte parce qu'en fait, de la voir faire autant de choses dans une journée, ça me crée de la culpabilité. Et donc, du coup, j'ai décidé de me désabonner pour préserver mon énergie en me disant, chez moi, ça donne une énergie négative, en tout cas, ça évoque des émotions négatives que j'ai pas envie de traiter en ce moment parce que j'ai beaucoup de choses à faire et que j'ai d'autres priorités. Donc, j'ai fait le tri dans tout ça.
Donc là, on a parlé de la négativité. Comment t'apportes du positif ?
Eh ben, ça marche aussi. C'est-à-dire que de la même façon que tu te désabonnes du négatif, comment tu peux aller faire le plein de sources positives ? Donc, abonne-toi à des gens qui, à chaque fois qu'ils partagent un message, ça te fait du bien. Abonne-toi à des magazines ou à des articles ou à des newsletters ou à des blogs de gens qui partagent quelque chose qui t'intéresse et qui te font ressentir de l'énergie positive.
Et toi, c'est quoi là les derniers comptes auxquels tu t'es abonné parce qu'ils te donnaient la patate, qui t'apportaient du positif ? T'as des exemples ?
Ouais, alors moi du coup, je suis beaucoup d'entrepreneurs dont j'aime beaucoup le contenu, qui me font du bien. Il y a les lectures aussi, on parle pas beaucoup des livres, mais les livres sont très importants. Dans les entrepreneurs que je suis, Il y a Antoine BM que j'aime beaucoup, il y a David Laroche. Après, moi, j'ai aussi un coaching business avec Jérémy Coleman et Florian Morata, donc qui sont des gens que je suis et avec qui je travaille en proximité. Après, en média positif, j'aime beaucoup l'optimisme. L'optimisme.fr, qui est un média qui est dédié aux informations positives, qui est le média de Catherine Testa, qui a aussi fait des livres d'ailleurs sur l'optimisme. Et après aussi, ça peut être dans tes amis proches, ceux qui partagent les trucs qui te font le plus de bien. Voilà, c'est principalement mes sources de positivité.
Tu m'as dit aussi que pour toi, la positivité, ça pouvait aussi venir des formations.
Tout à fait. J'achète des formations en ligne, j'achète des livres, j'achète des coachings. Pour moi, c'est extrêmement important en fait de se rappeler que la diète médiatique, c'est vraiment enlever la source négative, mais encore faut-il mettre de la source positive. C'est-à-dire que les gens font souvent le parallèle avec l'alimentation. C'est-à-dire que si tu veux mieux te nourrir, c'est bien d'arrêter de bouffer du fast-food, mais c'est bien aussi de manger des fruits et légumes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste s'arrêter de manger, il faut juste mieux manger. Ben là, c'est pareil, c'est enlever négatif, mais aussi après, aller faire rentrer des informations positives. Et pour moi, le coaching, la formation, les livres... Après, ça peut être aussi des choses fun, hein. Ça peut être aussi des spectacles humoristiques, des activités, tout ce qui, en fait, va te procurer du positif.
Alors, parlons business. Est-ce que, selon toi, on peut faire de son hypersensibilité un atout pour développer son activité?
Évidemment, pour moi c'est un grand oui, parce que pour moi c'est un super pouvoir. À partir du moment où tu apprends à te connaître et que tu sais comment tu fonctionnes, évidemment ton hypersensibilité devient un atout. Moi, ça a clairement radicalement changé mon activité. Je donne un exemple concret. En tant qu'hyper empathique, je pense que ça a fait de moi une meilleure coach pour les gens que j'accompagne, parce qu'en fait je suis capable de me dire ok, voilà comment elle ressent, souvent des fois sans mots, sans paroles, comment mes coachés se sentent et qu'est-ce qui peut les aider. Et ça me permet en fait, d'aller trouver le point bloquant, d'aller poser la bonne question, d'aller poser un mot qui est plus rassurant, d'avoir cette bienveillance et cette positivité qui est aussi liée finalement à mon ultra-sensibilité. Et donc moi, c'est sûr que ça m'apporte dans mon business beaucoup de bien. Et donc cette hypersensibilité pour moi est un vrai cadeau dans le business.
Si parmi les freelances qui nous écoutent, certains se reconnaissent dans la description de l'hypersensibilité, qu'est-ce que tu leur conseilles de faire ensuite pour aller un peu plus loin?
Alors, le vrai conseil que je pourrais leur donner, c'est de se poser leur question déjà. Est-ce que ils connaissent leur hypersensibilité? Est-ce qu'ils se reconnaissent? Et donc, du coup, c'est une découverte pour eux. Dans ce cas-là, le premier pas que je recommande, c'est d'aller creuser. C'est quoi l'hypersensibilité? D'aller peut-être suivre des gens qui en parlent, d'aller s'informer sur dans quoi ils se reconnaissent, dans quoi ils se reconnaissent moins. Et dans tous les cas, d'apprendre à se connaître. Parce que ça va leur aider à comprendre leur fonctionnement et peut-être à réagir différemment aussi dans le business. Si ils se connaissent, ils se savent déjà hypersensibles, la question c'est, est-ce qu'il y a un problème derrière? Moi, ce que j'aime bien rappeler, c'est que l'hypersensibilité, c'est juste un fonctionnement, c'est pas un problème. Par exemple, moi je fais des accompagnements avec des personnes hypersensibles, mais c'est juste le fonctionnement de base. Mais leur problème, leur envie de mieux, c'est pas ça, c'est pas l'hypersensibilité, c'est tout le reste. C'est comment elles peuvent prendre confiance en elles, comment elles peuvent se sentir mieux dans leur vie pro, leur vie perso. Et donc, si tu découvres ton hypersensibilité, la question c'est, est-ce qu'il y a un problème associé à ça pour toi? Ou est-ce que finalement tout va bien et ça te pose pas de soucis et que dans ce cas-là, comment tu peux continuer à juste avancer avec en sachant que tu fais partie des hypersensibles et c'est super cool.
Sans transition, comment se porte ta petite entreprise?
Bah écoute, très bien, notamment parce que j'estime que j'ai beaucoup de chance de pouvoir faire un métier passion. J'avoue que je ne fais que des choses que j'aime, bon sauf la compta et tout ça, mais un jour je délèguerai. Donc j'avoue que j'aime beaucoup ça. On avait déjà parlé toutes les deux en off du fait que j'aime tellement mon métier que je mets aucune limite entre le pro et le perso. C'est pas forcément quelque chose de bien ou de mauvais, mais c'est comme ça que je fonctionne. Et c'est vrai que j'adore ce que je fais, je le fais par passion, ce qui fait que pour moi, le travail, c'est un petit peu tout le temps et c'est un petit peu jamais.
T'es contente des revenus que ça te permet de générer ou t'as encore des objectifs là-dessus?
Moi, mon entreprise me permet de vivre à temps plein, hein, déjà depuis 2014. Donc, je vis uniquement de mon activité et j'en suis très contente. Après, est-ce que je veux faire plus? Évidemment, parce que j'ai envie de toucher plus de personnes, d'aider plus de monde. J'ai 1000 projets en tête, donc j'ai envie de faire plein de choses.
Est-ce que tu pourrais me parler de ton dernier kiff de freelance? Un moment où tu t'es dit, c'est quand même super cool d'être freelance. J'aurais jamais pu faire ci, ça, quand j'étais salarié.
Ah, je me le dis tous les jours, franchement. En plus, je suis très gratitude, c'est-à-dire c'est des exercices de gratitude que je pratique énormément, qui me font beaucoup de bien, je suis très, très sensible à ça. Et en fait, tous les jours, je me dis, mais quel cadeau, quoi. Parce qu'en fait, j'ai un mode de vie déjà où je suis une fille du soir. Moi, je dors tard le matin et je travaille plutôt tard le soir. Et en fait, surtout, ça me permet d'avancer en fonction de mon énergie. Et tous les jours, je me dis, mais quel cadeau de pouvoir me dire, là, j'ai plutôt envie de faire ça, je le fais, là, j'ai pas envie, je le fais pas. de pouvoir moduler ma vie, mon agenda en fonction de, à la fois, mes énergies hautes, et puis si je suis malade et que je sens qu'il faut que je me couche 2 heures, je le fais.
Et voilà, c'est terminé. J'espère que le témoignage et les conseils d'Élise vous aideront à prendre du recul sur vos émotions. Perso, la prochaine fois que je panique parce qu'un client ne me donne pas de nouvelles ou que le nombre d'écoutes du podcast baisse un peu, je me note d'utiliser la sphère de responsabilité. Faire le tri entre ce qui est de mon ressort et le reste, ça me paraît un bon moyen de retrouver un peu de sérénité. Si vous passez beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, je vous recommande de vous poser la question. Dans tout ce flux d'informations, qu'est-ce qui me tire vers le haut, qu'est-ce qui me tire vers le bas ? Et de faire, comme Élise, arrêter de suivre les comptes dont le contenu vous plombe. J'aimerais bien savoir comment ça se passe de votre côté. Est-ce que pour vous aussi, le confinement a été synonyme d'émotions fortes ? Est-ce que vous vous reconnaissez dans la définition de l'hypersensibilité ? Dites-moi tout dans un commentaire ou un message sur Instagram, Twitter ou Facebook. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail à hello@lacohorte.fr. Avant de vous quitter, je fais une dédicace à Kelly, Karine, Laurence, Zer, Suzanne, Johan, Mitsu, Jean-Charles, Émilie, The Crow, Hélène, Céline, Philippe, Perrine, Déborah, Thomas, Marlou, Angela, Lionel, Mathilda, Marou, David, Julien, Marité et Audrey. Un grand merci à vous pour avoir participé au sondage de la cohorte. Une dernière chose, si vous aimez le podcast, parlez-en à tous vos potes freelance. Vous pouvez aussi laisser une note ou un avis sur l'application qui vous sert à écouter les épisodes, en particulier s'il s'agit d'Apple Podcasts. Grâce à votre soutien, la cohorte continuera encore longtemps à vous faire frétiller les oreilles. On se retrouve dans 15 jours pour de nouvelles aventures et d'ici là, surtout, restez libres.